Nous allons continuer avec la leçon inaugurale. Et après cette leçon inaugurale, nous aurons une photo de famille à l'extérieur de la ville.
Cette période, il faut le dire, était marquée par une approche simple de l'étude du milieu, qui était fondée essentiellement sur des descriptions, sur des catégorisations et des inventaires biologiques ou des évaluations de ressources halieutiques. Les grands lacs d'Afrique de l'Est et centrale firent l'objet d'expéditions célèbres durant cette période. Mais la science de l'eau était étrangère, n'est-ce pas, extérieure, et ne répondait pas à des logiques chez les peuples autochtones. Dès les indépendances et l'institutionnalisation des États, c'est-à-dire dans la période 1960 à 1980 notamment, la limnologie africaine a commencé à se forger une identité propre par la formation des cadres, la création des laboratoires et surtout l'inscription des sciences de l'eau dans les curricula universitaires. C'est ainsi que des biologistes, des hydrologues, des hydrogéologues, des géographes, gestionnaires des ressources naturelles formés ont compris l'importance capitale des eaux douces dans le développement économique. Dans le développement économique, d'une part, la santé publique, l'agriculture et la stabilité écologique des nations. Au Cameroun, cette phase est indissociable de la création et du développement de la faculté des sciences de l'université de Yaoundé. Bien que menée avec des outils rudimentaires, les investigations scientifiques ont permis de décrire pour la première fois la dynamique saisonnière des mares et des marécages de la zone de forêt dense dans laquelle nous nous trouvons. Nos travaux avec ceux des pionniers nigérians, kenyans, ivoiriens ou sud-africains ont posé les premiers jalons d'une connaissance endogène. Ainsi a été documentée la spécificité des systèmes tropicaux, notamment l'importance de la couverture végétale riveraine, le rôle crucial des variations saisonnières du niveau d'eau, la productivité particulière des écosystèmes et l'immense biodiversité, souvent méconnue, des petits plans d'eau. Cette période fut celle de l'affirmation d'une capacité de recherche locale et celle de la pertinence de la limnologie pour le développement national dans les pays africains. Au Cameroun, pays charnière par sa géographie et sa diversité hydroécologique, la limnologie a trouvé un terrain particulièrement fertile. Des écosystèmes emblématiques tels que le lac Tchad, avec le bassin du Mayo Tsanaga dans la région de l'extrême nord, les cours d'eau du bassin de la Sanaga, les lacs volcaniques dans les régions de l'ouest et du nord-ouest, sur la ligne Cameroun, les marécages et les écosystèmes côtiers, les eaux souterraines ainsi que les retenues hydroélectriques ont suscité énormément d'intérêt scientifique. Lorsque nous avons initié les premiers travaux structurés sur les lacs et cours d'eau du Cameroun, dans les années 70 à 80, les enjeux portaient essentiellement sur les points suivants. La description des communautés planctoniques et benthiques, c'est ça. La compréhension des cycles biogéochimiques locaux, la caractérisation physico-chimique des masses d'eau, l'étude des impacts de l'activité humaine sur les écosystèmes aquatiques en zone forestière. Voilà les grandes lignes sur lesquelles nous avons travaillé. Ces premières bases ont progressivement donné naissance à une véritable école camerounaise de limnologie, rendue possible grâce à la collaboration entre universités, centres de recherche, agences intergouvernementales et des partenaires internationaux. Le laboratoire d'hydrobiologie et environnement a bénéficié de la coopération avec l'Université de Clermont-Ferrand à travers le laboratoire de biologie comparée des protistes, actuellement devenu laboratoire micro-organismes, génome et environnement de l'Université Clermont-Ferrand après la fusion des différentes universités. L'Université Sciences et Technologies de Lille, laboratoire de microbiologie fondamentale et appliquée, nous a accompagné dans la formation des microbiologistes. L'Université Paul Sabatier de Toulouse, et le laboratoire d'écologie fonctionnelle ECOLA, qui nous a formé nos collègues, n'est-ce pas, dans la stigobiologie. L'Université Libre de Bruxelles, laboratoire de microbiologie des milieux naturels et anthropisés, dans le domaine de la microbiologie également. L'Université de Rennes, le laboratoire Ecobio, écosystème, biodiversité et évolution. Ici, représenté par notre collègue Piscard, et qui est également un membre d'une structure, n'est-ce pas, du CNRS français. Nous avons bénéficié également du partenariat avec Air Développement et l'IRD, qui nous ont accompagnés profondément dans notre formation. De nos jours, la limnologie africaine est sortie du seul champ académique pour répondre aux questions du développement durable et à des urgences croissantes. La dégradation accélérée des berges et l'ensablement du lac Tchad, l'eutrophisation naissante du lac Victoria, la pollution industrielle et urbaine des grands cours d'eau du Cameroun, par exemple, Voui, Benoué, du Niger, n'est-ce pas, le Niger, au Niger et d'autres, le bassin versant du Fundi et de la Bifou pour venir au Cameroun, ainsi que les conflits d'usage autour de l'eau aux conséquences tragiques, ont imposé une approche plus intégrée de la gestion des ressources hydriques. La limnologie est devenue une science trans et multidisciplinaire, incorporant plusieurs autres disciplines, telles la géomorphologie, telles la chimie des polluants, l'écotoxicologie, l'hydrogéologie, les statistiques même, le droit et les sciences sociales pour comprendre les usages et les pressions. Le dynamisme des limnologues africains a favorisé l'émergence des programmes internationaux et des réseaux de recherche à l'instar du réseau africain des zones humides, marquant la prise en compte à l'échelle continentale des défis à relever dans le secteur de l'eau. Pour ce qui concerne ces réseaux, par exemple, il s'agit du réseau mondial des zones humides. Nous pouvons mentionner le réseau mondial des zones humides, World Wetland Network, section Afrique. Une initiative de la société civile visant à protéger, à restaurer et à valoriser les zones humides sur le continent africain. Ce réseau s'inscrit dans un contexte d'urgence, car les zones humides africaines sont des écosystèmes productifs, mais menacés et nécessitant donc une protection pour lutter contre la perte de la biodiversité. Il est rappelé que ces milieux, à savoir les marais, les mangroves, les prairies inondables, sont vitaux pour l'eau, pour la biodiversité, le climat et les moyens de subsistance des communautés, produisent l'eau potable, l'eau douce, la pêche, les pâturages, le bois de chauffe. Donc les familles vont chercher le bois de chauffe dans ces milieux humides qui sont mangroves, par exemple. On doit souligner que, parallèlement à ce réseau continental, des initiatives locales existent, comme le réseau de jeunes pour la préservation des zones humides, qui est très actif au Cameroun, en abrégé REGEM, n'est-ce pas ? Ce sont des initiatives locales. Pour ce qui concerne le second groupe, les enjeux entre urgence et les défis scientifiques, qui marquent en fait le présent. Aujourd'hui, la limnologie en Afrique et au Cameroun se trouve au carrefour de multiples défis stratégiques qui sont d'ordre écologique et climatique d'une part, scientifiques, sociétaux et existentiels d'autre part. Pour ce qui concerne l'enjeu de type scientifique et de la connaissance fondamentale, on doit marquer que la limnologie, quoique étudiée depuis plus d'une soixantaine d'années, c'est-à-dire bientôt un siècle, pas plus, n'est-ce pas, un peu plus d'un demi-siècle, notre connaissance des milieux aquatiques africains reste parcellaire du fait du déficit des données dont on parlait tout à l'heure, n'est-ce pas, des données de référence qui handicapent toute politique de conservation et de gestion durable. En fait, on se pose plusieurs questions encore. Par exemple, combien d'espèces de microcrustacés, de cilies, de bactéries, de branchiopodes, de macrophytes, trouve-t-on dans nos milieux, dans nos milieux aquatiques? On ne peut pas répondre à cette question. C'est du domaine de la connaissance, il faut continuer à travailler, engranger des résultats, ensuite ça permettra de mieux connaître. Et d'autres types de questions, une autre question est la suivante. Quelle est la dynamique réelle des nappes phréatiques et de la faune stygobie en zone semi-aride. Ce matin, on a parlé des sources du Moyen. Et on nous a dit qu'il y avait beaucoup de calamités. Ben, il était question de savoir, effectivement, puisque c'est justement à la source, si ces organismes ne viennent pas précisément de la nappe phréatique. Il ne serait pas étonnant que cela soit le fait, n'est-ce pas? Bon, je pense que ça, c'est encore des questions qui permettront, n'est-ce pas, d'apporter des réponses. Une autre question se pose de savoir comment fonctionnent les interactions biogéochimiques dans la zone afrotropicale. L'enjeu de la connaissance reste encore énorme et il est nécessaire que les lacunes soient comblées avec des méthodes modernes émergentes telles que la génomique environnementale, telles que la télédétection, telles la modélisation hydrodynamique, la bioindication avancée, les analyses isotopiques, et j'en passe. Ces nouvelles approches qui nécessitent une impérative contextualisation ouvrent des perspectives sans précédent. Cependant, elles exigent aussi davantage de formations spécialisées, d'infrastructures techniques et bien évidemment de financement. Vous voyez, à travailler avec les bailleurs de fonds, n'est-ce pas, pour obtenir des financements et avancer dans ce domaine. En ce qui concerne les enjeux écologiques et climatiques, les systèmes aquatiques africains sont parmi les plus vulnérables aux effets des changements climatiques du fait des perturbations du régime des pluies, de l'assèchement des zones humides, de la hausse des températures de surface due à l'augmentation des gaz à effet de serre, de la prolifération des espèces invasives telles les cyanobactéries et les crises écologiques majeures comme celles ayant occasionné et imposé la réduction de plus de 90% du lac Tchad dans les années 70 à 80 et 1980. Ces changements menacent la biodiversité par suite de destruction des habitats. Les ressources menacent également les ressources halieutiques et la stabilité des services écologiques qui sont rendus par les services écosystémiques qui sont attachés à ces milieux. En ce qui concerne les enjeux sociétaux et existentiels, en Afrique, il est établi que plus de 60% des populations dépendent directement des eaux continentales pour leur alimentation, leur énergie, leur santé et même leur économie, toute leur économie là. Cependant, les diverses pollutions de l'eau, de type domestique, agricole, minier et industriel, engendrent des risques aux conséquences désastreuses pour la santé humaine et sur l'intégrité biologique des hydrosystèmes. En effet, avec la dégradation des bassins versants, la pollution diffuse ou même ponctuelle, les polluants émergents associés à la surexploitation des ressources et au changement climatique, la qualité des eaux est en péril et les services écosystémiques qui sont attachés sont réduits. La biologie, en éclairant la qualité des eaux et les dynamiques écologiques, joue un rôle central dans la gouvernance de l'eau. Pour ce qui concerne l'enjeu du de l'enjeu du lien social, du lien science-décision. On va dire, ici, c'est peut-être l'enjeu le plus douloureux. Parce qu'en fait, ici, il faut établir le lien entre le savoir et l'action, entre le scientifique et le décideur. Il s'agit ici de dire, de trouver la contribution de la science à la prise des décisions éclairées. En principe, les connaissances scientifiques doivent guider la prise des décisions là où la qualité de l'environnement est en jeu. Donc, le scientifique, ici, n'est-ce pas, doit fournir des données qui permettent aux décideurs de prendre la meilleure décision. C'est-à-dire, il faut dire que l'enjeu est de construire des interfaces efficaces, de former des gestionnaires avertis, de faire de la limnologie une science d'aide à la décision incontournable afin que la santé humaine, la santé de l'environnement soit préservée de façon durable pour l'épanouissement de toutes les générations. L'enjeu de la formation et des moyens. L'Afrique noire manque cruellement de limnologues formés. Des spécialités pointues telles que l'hydrochimie, la modélisation écologique, l'écologie des zones humides et des mares temporaires sont sous-explorées. Les laboratoires sont souvent suréquipés. Les budgets dédiés à la recherche sont souvent dérisoires. Et la continuité des suivis à long terme, qui est pourtant essentielle en écologie, est rarement assurée. Cette précarité freine l'émergence d'une masse critique capable de faire face aux défis. Le troisième point, c'est l'avenir. Quel avenir pour la technologie? Vers une technologie africaine résiliente, innovante et engagée. L'avenir de notre discipline scientifique dépendra de notre capacité à relever plusieurs défis structurants. L'avenir de la limnologie doit se construire sur une refondation volontariste en Afrique en s'appuyant sur 5 piliers au 21e siècle, à savoir, bon, je ne vais pas rentrer tout de suite, voilà, à savoir, le premier pilier, c'est la science des sentinelles écologiques, l'utilisation des sentinelles. On a parlé ce matin d'indicateurs, des indicateurs. C'est pas justement dans cette ligne, voyez. On appelle sentinelle écologique un organisme vivant, souvent ce sont des organismes animaux, ou un outil technologique qui est utilisé pour surveiller la santé d'un écosystème, détecter précocement des pollutions ou des changements climatiques. Ces indicateurs biologiques ou techniques donnent l'alerte sur les dégradations environnementales avant que celles-ci ne deviennent irréversibles. On a parlé ce matin des données. De l'IA, de l'intelligence artificielle. En fait, il s'agit, pour que ce travail soit efficace, il est bon de disposer d'une foule de données. Il est bon de disposer, pas seulement d'une foule de données, mais des données qui sont recueillies d'une certaine manière, qui sont relevées de manière continue. Il faudrait que les échantillons soient suffisamment représentatifs pour que les conclusions qui vont être tirées soient suffisamment adaptées aux solutions qui vont être prises. D'où la nécessité, effectivement, de déployer sur le continent des réseaux de surveillance robustes et standardisés, utilisant à la fois des bio-indicateurs et des indices locaux conçus par zone écologique, ainsi que des capteurs permettant d'alerter en temps réel sur les changements qui s'opèrent dans les milieux aquatiques. On prend un grand bassin versant comme le bassin de Congo. On ne peut pas s'amuser à dire que c'est les chercheurs qui vont aller prélever tous les jours. Il faut installer obligatoirement, bien entendu, des capteurs, n'est-ce pas, des indicateurs, des outils qui vont assurer des prélèvements, des données, je veux dire, régulièrement et les transmettre. Si c'est à ça que nous, si on est devenu limnologue, nous devrions aboutir, c'est-à-dire faire valoir précisément cette nécessité si on veut exploiter davantage les données du bassin, si on veut exploiter davantage les services écosystémiques qui sont disponibles. Il est absolument nécessaire que ce soit de cette manière. En outre, les infrastructures et outils doivent être modernisés via les laboratoires qui sont équipés, des stations limnimétriques, ça peut se faire, ça se faisait déjà dans l'IAP, en fait, des stations limnimétriques à chaque cours d'eau, à différents endroits, et on peut relever les données de manière systématique. Et c'est vers ça que nous devons tendre, absolument. Donc, avoir des laboratoires équipés, des stations limnimétriques, des réseaux d'observation automatique, des plateformes bioinformatiques et des banques de données. Pour ce qui concerne la science, la limnologie moderne, c'est-à-dire de nos jours, de l'avenir, doit être une science intégrée et transdisciplinaire. La limnologie future ne doit plus être l'affaire des seuls biologistes, c'est-à-dire des hydrobiologistes. Elle doit intégrer des hydrologues, des climatologues, des géochimistes, des informaticiens, des sociologues, des anthropologues, des économistes, des juristes. Donc, ce n'est plus une seule science. Il faut qu'elle soit associée, qu'elle soit intégrée à d'autres sciences. Qu'elle soit, comme nous disons, transdisciplinaire. Elle était déjà pluridisciplinaire, mais il faut maintenant qu'elle soit vraiment, nous disons, trans, bon, mettant les disciplines, n'est-ce pas, transversales. Pour cela, il est impératif de renforcer la formation et les réseaux scientifiques à l'échelle nationale, régionale et même continentale. La limnologie doit être une science de solution basée sur la nature. La limnologie doit être au cœur des stratégies nationales de gestion intégrée des ressources en eau, des plans de prévention et des réponses aux crises environnementales et des programmes de restauration écologique. Au lieu d'envisager des solutions de de restauration qui sont fondées uniquement sur la technique. On doit apporter des solutions fondées sur les écosystèmes, sur l'écologie. Par exemple, lorsqu'on doit restaurer les berges d'un cours d'eau, du lac municipal de Yaoundé, eh bien entendu, on va faire, on doit recourir aux données qui ont été publiées, on doit utiliser la végétalisation et non pas le béton, par exemple. Ici, c'est un exemple. Donc, on va absolument recourir, bien sûr, aux travaux des scientifiques, etc. Alors, nous disons ceci, et puis on dit que les ligologues doivent en évaluer l'efficacité et en optimiser la mise en œuvre à toutes les échelles. Les ligologues doivent savoir qu'ils doivent apporter des solutions. Tout à l'heure, on parlait de l'aquaculture. Eh bien, l'aquaculture est un métier de l'eau. Bien sûr, si vous convenez avec moi, c'est même élémentaire. Mais l'aquaculture est gérée par le ministère de l'Agriculture, parce que les limnologues, effectivement, ne s'occupent pas de ça. L'aquaculture, c'est une discipline, c'est une filière qui doit être mise en place par les limnologues. C'est-à-dire qu'ils doivent prescrire les différentes connaissances que l'on doit faire acquérir pour pouvoir exercer. Parce que ce soit l'eau, que ce soit le poisson ou que ce soit l'eau, c'est de la limnologie. L'agriculture, le ministère de l'Agriculture a pris un espace qui était laissé vide par nous. Mais il nous appartient maintenant à nous réapproprier, bien entendu, ce genre, n'est-ce pas, disons, ces formations. Il faut, en nous créant la formation aquaculture, maintenant il faut, bien entendu, disons bien, découper toute cette formation en différentes activités. Et nous faisons acquérir ces activités, ces connaissances aux jeunes. Ce n'est pas forcément au niveau de la licence, ce n'est pas forcément au niveau du doctorat. On peut très bien le faire. En tout cas, si on s'assoit, on doit trouver qu'est-ce qu'il faut faire. Et si on fait ça, effectivement, nous reprenons notre place. La faculté, la limnologie, n'est-ce pas, se retrouve. L'immunologie doit être une science ancrée dans la coopération panafricaine et internationale. L'eau ignore les frontières administratives qui sont tracées entre les pays, les régions et les localités. Nos réseaux de recherche doivent se consolider et se structurer en véritable communauté de savoir et de pratique. Les collaborations sud-sud, par exemple, entre chercheurs du bassin du Congo ou du bassin du Tchad, bassin du Nil. Ces coopérations, n'est-ce pas, sont efficaces, doivent se faire. Parce qu'effectivement, elles se rapprochent, on se comprend beaucoup mieux que de travailler de manière isolée. Ceci ne remplace pas, bien évidemment, les coopérations nord-sud, qui sont très équitables. Les grandes initiatives continentales, comme celle de l'Union africaine sur la gestion de l'eau, doivent s'appuyer sur une expertise scientifique limnologique forte et unis autour des programmes interdisciplinaires, des outils comme comité de gestion du bassin du lac Tchad, comité de gestion du bassin du Congo, tout ceci, ça vous allez voir, doivent intégrer davantage d'experts scientifiques. Lorsque vous allez sur le site, vous allez voir qu'il y a beaucoup plus d'administratifs. Mais c'est parce que nous n'y allons pas. Nous devons y aller, absolument, n'est-ce pas? Alors, parlons de coopération. Ici, l'Union africaine, la 39e session du sommet ordinaire s'est tenue il y a quelques jours, mois dernier, le 14 et 15 février à Addis Abeba. Et nous nous réjouissons parce que le thème de l'année, c'est l'accès durable à l'eau et à des différents systèmes d'assainissement. Donc, l'eau a été mise au cœur des priorités continentales pour l'année 2026. C'est donc dit déjà que même les politiques savent la nécessité effectivement d'assurer une bonne gestion de l'eau. Et nous serons là, n'est-ce pas, pour les accompagner, donc pour nous faire accompagner, pour assurer une certaine complémentarité entre les différentes actions. La limnologie doit être une science qui transmet et qui inspire. Enfin, l'avenir de la limnologie repose sur la relève. Nous devons insuffler aux jeunes générations la passion de l'eau, ses mystères et sa préservation. Intégrer la limnologie dans l'enseignement secondaire, pourquoi pas? Tout ça, c'est à venir. Il faut voir quel est l'intérêt, qu'est-ce que pour faire acquérir la nécessité de préserver l'eau déjà. Vous savez, même dans nos cultures traditionnelles, on sait déjà ce qu'il ne faut pas faire à la rivière. Vous savez bien, nous, quand on a grandi, on savait tout ce qu'à la rivière, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela. Tout ça, ça marque l'esprit et ça prépare, ça prédispose à œuvrer à l'avenir. Ainsi donc, la science doit aussi dialoguer avec les communautés locales, intégrer les savoirs et les savoir-faire traditionnels sur les poissons, les crues, les plans aquatiques, pour co-construire une gestion adaptée et légitime. En effet, la participation des communautés locales, des technologies particulières, participatives, l'éducation environnementale et la sensibilisation des populations constituent l'un des leviers les plus puissants pour une gestion durable des eaux. En somme, la limnologie africaine n'a jamais été aussi indispensable qu'aujourd'hui. Elle doit désormais se positionner comme une discipline stratégique indispensable au développement durable du continent. C'est donc le lieu d'inviter tous les acteurs de l'eau, enseignants, chercheurs, étudiants, décideurs et partenaires internationaux, à consolider notre coopération, mutualiser nos compétences et œuvrer ensemble pour bâtir une Afrique où les écosystèmes aquatiques restent sains, productifs et résilients. Chers collègues, chers étudiants, chers partenaires, l'historique que je viens de retracer est notre héritage. Les enjeux sont notre réalité, aussi accablant soit-il. Et l'avenir, ici, est notre choix, notre responsabilité collective. Le Cameroun, avec sa mosaïque de biomes, de forêts humides au sud, des forêts humides du sud aux savanes arides du nord, du mont Cameroun aux plaines inondables de la Bénoué, est un microcosme des défis limnologiques africains. Ce pays peut et doit devenir un laboratoire à ciel ouvert, un lieu d'innovation pour cette limnologie du futur. En tant que un des pionniers, en tant que pionnier, n'est-ce pas, je vous l'affirme, l'époque du chercheur solitaire qui publie pour ses pairs est révolue. La limnologie africaine de demain doit être une science d'équipe. Pour travailler en équipe, nous avons dit qu'il faut déjà qu'elle soit pluridisciplinaire. Une science d'équipe, une science de terrain, une science connectée, une science engagée pour la santé de nos eaux et donc pour l'avenir de nos peuples. Elle sera exigeante, rigoureuse, mais profondément humaine et utile. En célébrant aujourd'hui la Journée internationale de l'hydrologie en Afrique, nous honorons non seulement l'histoire de la recherche, mais aussi les responsabilités immenses qui nous incombent pour l'avenir. Puissions-nous, à travers notre engagement, garantir aux générations futures des eaux limpides, des écosystèmes florissants et un continent maître de ses ressources, de ses ressources hydriques. Puissent les échanges de ces prochaines journées être féconds, puissent-ils déboucher sur des collaborations concrètes, des projets ambitieux et une ferme résolution de placer la science des eaux continentales au cœur des priorités du développement durable de notre cher et beau continent. Je vous remercie pour votre attention.